Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, le coup de force de Donald Trump. Le président américain a décidé de contourner le Congrès pour obtenir la construction de son mur anti-migrants. Il a décrété hier soir l'urgence nationale. À suivre le 14e week-end de mobilisation des Gilets jaunes, week-end car en plus de ce samedi de rassemblement, les Gilets jaunes ont décidé de célébrer demain dimanche à Paris leurs 3 mois de mobilisation. Dans l'actualité de ce samedi également, l'examen du projet de loi pour une école de la confiance. Les députés se sont prononcés cette nuit en faveur de l'emploi d'assistants d'éducation, mais aussi pour l'obligation des drapeaux français et européens dans les classes. Dans ce journal également, une carte postale en provenance de Bretagne où la douceur s'est installée pour les vacanciers des zones B et A depuis hier soir. À 8h10, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard. Et à 8h20, question à votre invité Éric Delvaux qui n'est autre que le député Aurélien Pradier.
Oui, député Les Républicains du Lot, il incarne le courant social au sein du parti de Laurent Wauquiez. Rendez-vous donc à partir de 8h20.
France Inter.
Bien décidé à parvenir à ses fins et donc à obtenir les fonds nécessaires pour la construction d'un mur anti-migrants à la frontière mexicaine, Donald Trump a finalement décidé, hier soir, de décréter l'urgence nationale. Une décision qui permet au président américain de contourner le refus du Congrès, mais qui devrait l'exposer à une féroce bataille judiciaire avec ses opposants démocrates. Washington, Gregory Phillips.
La speaker démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dit qu'elle examine toutes les options possibles pour contester cette urgence nationale, d'abord au Congrès, puis s'il le faut devant les tribunaux, car dit-elle, cette procédure d'urgence est illégale et marque un abus de pouvoir de la part de Donald Trump. Une loi datant de 1976 autorise pourtant les présidents américains à contourner ainsi le Congrès pour débloquer des fonds de manière exceptionnelle. W. Bush l'a fait après les attentats du 11 septembre 2001 ou Obama au moment d'une grave crise de grippe H1N. Mais ce que les démocrates conteste aujourd'hui, c'est la réalité de cette urgence migratoire. Comme le disait hier soir Stacey Abrams de l'État de Géorgie, c'est elle qui, en début de mois, avait été désignée par le parti pour répondre au discours sur l'État de l'Union du président.
C'est la prérogative du président de déclencher une procédure d'urgence. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Mais là, il n'y a pas d'urgence. C'est un mensonge et c'est juste un coup politique.
Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, dénonce une dérive autoritaire et anticonstitutionnelle. Les États démocrates de New York et de Californie font savoir qu'ils sont prêts à aller au tribunal pour contester cette décision. Donald Trump, enfin, se dit certain de gagner au nom de la sécurité nationale, même s'il faut pour cela aller jusqu'à la Cour suprême. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
Les États-Unis qui ont par ailleurs décidé d'envoyer en Colombie de l'aide humanitaire à destination du Venezuela, 200 tonnes supplémentaires vont ainsi être acheminées par avion près de la frontière vénézuélienne, selon le ministère de la Défense. Ceci afin de venir en aide à ce pays de plus en plus isolé sur la scène internationale. Les États-Unis enfin, où 5 personnes ont été tuées, plusieurs policiers blessés au cours d'une fusillade qui a éclaté hier soir dans un bâtiment industriel situé dans la banlieue de Chicago, fusillade au cours de laquelle le tireur a été abattu par la police selon les autorités locales.
14e samedi et même week-end de mobilisation pour les Gilets jaunes.
Week-end en effet, puisqu'en marge des rassemblements prévus ce samedi, les Gilets jaunes envisagent de célébrer à leur manière, demain dimanche à Paris, les 3 mois jour pour jour de leur mobilisation. En attendant, de nouveaux rassemblements sont donc envisagés ce samedi un peu partout en France, avec des appels à la mobilisation plutôt fragmentés, Delphine Evenou.
Les figures du mouvement restent cette fois plutôt discrètes, les lieux de rendez-vous sont nombreux et flous et les mots d'ordre sont radicalement différents, appel à rester pacifique ou au contraire à l'insurrection. À Paris, plusieurs points de ralliement sont donnés, place de la République, les Champs-Élysées, le 18e arrondissement. Comme chaque samedi, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes, Strasbourg auront aussi leur cortège. Et à Pontivy, en Bretagne, 2000 personnes sont attendues. Jérôme Rodriguez, blessé à l'œil, s'annonce lui à Chartres, mais sans donner de date, car les Gilets jaunes pourraient bien vouloir mettre l'accent sur demain, 17 février, 3 mois de mouvement jour pour jour. Une manifestation relayée par Éric Drouet est annoncée comme déclarée demain à 11h depuis l'Arc de Triomphe. Direction ensuite, et comme la semaine dernière, le siège du MEDEF et l'Assemblée nationale où un manifestant a été gravement blessé à la main lors de l'acte 13. D'autres enfin appellent à un retour aux sources, notamment en Midi-Pyrénées et dans l'Est, où plusieurs groupes veulent réinvestir vers les ronds-points dès ce matin.
Sachez par ailleurs que l'émission Secret d'Info à 13h20 sur France Inter sera consacrée à la façon dont le Rassemblement National de Marine Le Pen a exploité ce mouvement des Gilets jaunes. Une enquête signée Frédéric Mettezo que vous pouvez d'ores et déjà découvrir sur franceinter.fr.
L'école et son fonctionnement au cœur des débats à l'Assemblée Nationale.
Oui, l'Assemblée Nationale où s'est achevé cette nuit l'examen du projet de loi pour une école de la confiance. Examen d'où l'on retiendra deux éléments importants. D'une part, le fait que les assistants d'éducation, ceux que l'on appelle encore les AED, pourront désormais, dès leur deuxième année de licence, exercer des missions rémunérées d'accompagnement puis d'enseignement lorsqu'ils seront en première année de master. Et puis, autre décision, celle de confirmer l'affichage dans les établissements scolaires des paroles de la Marseillaise, ainsi que de rendre obligatoire la présence de drapeaux tricolores et européens dans les classes. Un amendement proposé par Eric Ciotti qui a lui aussi fait polémique. Je vous propose d'ailleurs d'écouter cet échange entre le député UDI Philippe Viguier et la députée de la France Insoumise Sabine Rubin.
Monsieur le ministre, on va vous aider parce que c'est important. Je me souviens, lorsque vous avez pris vos fonctions de ministre de l'Éducation nationale, vous êtes venu dans mon département. Et vous avez dit, l'école, je veux qu'on y maîtrise la lecture, le calcul, l'écriture. Mais vous avez prononcé un quatrième mot qui pour moi est essentiel, c'est le respect. Le respect de la République, le respect de ses symboles, le respect de ses valeurs. Lorsque la République est fragilisée, mes chers collègues, il faut plus de République. C'est un acte pour plus de République.
Merci. Madame Rubin, la parole.
Si vous pensez vraiment qu'en mettant un drapeau dans chaque école, cela permettra aux jeunes de se réapproprier les valeurs républicaines, que de mettre dans la loi continuellement des symboles, mais rarement des actes qui permettent une véritable appropriation de ce qui fait les valeurs de la République, c'est vraiment très naïf. Pensez-vous vraiment, compte tenu de la jeunesse actuelle, que de mettre un drapeau dans chaque salle plutôt que simplement au fronton va changer quelque chose? Alors si ça ne change à rien, pourquoi vous le faites? Est-ce qu'il y a un lobby des drapeaux qui est quelque part dans cet hémicycle?
Échange recueilli par Sonia Princé. Le vote solennel de ce projet de loi est prévu pour mardi prochain. Il sera ensuite examiné au Sénat. Allez, un petit peu de douceur dans ce journal, de la douceur et du soleil pour les vacanciers de la zone B, rejoints depuis hier soir par ceux de la zone A. Illustration de cette météo plutôt clémente, même en Bretagne, avec cette carte postale envoyée de Pléneuf-Val-André dans les Côtes-d'Armor par Joanne Oison.
Du soleil, du monde sur la plage. Si les résidences secondaires le long de la digue promenade n'étaient pas fermées, franchement, on pourrait presque se croire en été. Presque.
On va aller voir la dame là-bas qui est assise sur sa serviette. Bon, elle n'est pas en maillot de bain. Hein.
Bonjour. Vous profitez du soleil ?
Tout à fait. J'ai pris des heures de repos pour profiter avec mes enfants pendant les vacances. Et là, c'est super. Tout à l'heure, je me suis dit que je me sentais plus en vacances d'avril que de février.
Bon, là, il y a une dame en maillot de bain. Il fait bon, mais il faut quand même être courageux pour aller se baigner, là.
Il fait très très beau. J'ai envie de me baigner et j'y vais.
Mais il n'y a quand même pas beaucoup de courageux comme vous. Là, vraiment, vous allez être la seule.
Je sais, j'ai l'habitude, ça fait 20 ans que je suis la seule.
Elle est bonne, là ?
Elle doit être autour de 6-7.
Bah, elle va vraiment se baigner, hein. Et elle met pas longtemps à rentrer dans l'eau. Excusez-moi, vous êtes du coin ou...
Non, du Pas-de-Calais. Je suis une ch'ti, en vacances. On aime bien la Bretagne, hein. On vient tous les ans. Cette année, c'est génial.
Je vous voyais regarder la dame qui est partie se baigner.
J'irai pas là, c'est trop froid.
Il y a du monde sur les terrasses aussi. Dans sa sandwicherie, Benoît a le sourire.
Du beau temps qui permet d'avoir une affluence un peu plus importante que ce que nous habituaient les mois de février des années passées. Donc on est content.
Sinon, le thermomètre de la voiture garée en plein soleil indique 20 degrés. Oui, oui, nous sommes en février et on est bien en Bretagne.
Voilà, reportage dans les Côtes d'Armor de Joanne Moison. De la danse à présent, Serge, pour refermer votre journal. De la danse axée sur la notion de gravité.
Gravité, c'est d'ailleurs le nom donné à ce spectacle par Angelin Prèges-Locage, le danseur et chorégraphe français qui a conçu ce spectacle en s'affranchissant des règles de la pesanteur, Stéphane Capron.
Défier la gravité, c'est exactement ce que font tout au long de leur carrière les danseurs. Pour échafauder son spectacle, Angelin Prèges-Locage a puisé dans l'histoire de la danse pour bâtir un nouveau langage corporel.
La danse folklorique qui frappe le sol, ou qui danse en rond pour créer du mouvement... Ou bien la danse classique qui cherche à s'émanciper littéralement de la gravité, à tel point que les danseuses essayent tellement de monter vers les cieux qu'elles montent sur leurs orteils, puis maintenant sur les pointes. Ou bien leurs partenaires qui les portent à bout de bras pour les arracher à cette gravité. Toujours est-il que la danse contemporaine, de son côté, fait de la gravité un partenaire. Donc elle utilise ses spécificités pour inventer des mouvements, pour créer une relation au sol, à la terre, et on pourrait dire qu'il y a déjà des vocabulaires de la gravité qui se déploient dans l'histoire de l'humanité.
La lumière conçue par Éric Soyer joue un rôle essentiel. Parfois pesante, parfois légère, parfois mouvementée, elle sublime les 12 danseurs du ballet. Enfin, Angelin Preljocage profite de cette nouvelle création pour livrer sa version du Boléro de Ravel, l'un des derniers tableaux du spectacle. Gravité, c'est à Chaillot, Théâtre National de la Danse, jusqu'au 22 février, puis à partir de début avril, au Théâtre La Criée, à Marseille. C'est la fin de ce journal, et en un pas de danse, nous retrouvons Éric Delvaux.
Un pas de danse à deux avec Patricia Martin. Merci Serge Martin.
On va parler des pirates.